La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie. Quoi.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, je souhaite que vous rencontriez un couple singulier, pas des artistes, ni des historiens. Non, aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec le Maharaja et la Maharani d'Indor. L'histoire somptueuse et mélancolique de deux personnages qui créèrent avec passion un monument de goût et de saveur dédié à la modernité occidentale au cœur de leur royaume dans le Madhya Pradesh. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres et Sri Yeshwant Rao Okar II et son épouse Sanyogita Devi vont, sous l'influence de quelques modèles européens et particulièrement français, réunir autour d'eux une constellation de personnages, mentors, artistes, architectes, décorateurs, designers, une constellation passionnante. Un instant presque parfait, un peu plus d'une décennie, dédié à la beauté, à l'élégance, à la perfection. Découvrons donc ensemble le fabuleux palais de Manik Bagh et le moderne Maharaja, puisque moderne Maharaja est le titre de l'exposition que le Musée des Arts Décoratifs a consacré à cette aventure clairvoyante. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui le Maharaja des arts décoratifs, Olivier Gabet, directeur du musée du même nom, et Raphaël Billet, la grande spécialiste du monde moderne, l'une des commissaires de l'exposition de 2016 sur le Bauhaus, et qui a été l'une des deux commissaires de cette exposition, le Maharaja moderne. Incroyable de pouvoir avoir la responsabilité de faire une exposition pareille sur ce personnage romanesque.
Tout à fait. Non, c'était une aventure passionnante qui nous a pris 3 ans et demi maintenant, où on est parti avec Louise Curtis à la recherche.
C'est votre collègue.
C'est l'autre commissaire. Et on a fait toute une enquête policière un petit peu. On est parti, on avait une connaissance de certaines choses, on a repris les ouvrages de référence. Et on s'est mis à la recherche de toutes les pièces et des archives pour recommencer une nouvelle enquête.
Si je disais que cette histoire est mélancolique, c'est parce qu'elle est somptueuse, en effet. C'est comment réunir la perfection autour de soi. Elle est mélancolique parce que tout cela est démembré aujourd'hui, Olivier Gabet.
Le palais a été vidé en 1980. Avec une très très grande vente qui à l'époque se déroule à Monaco puisque les grandes maisons de vente anglo-saxonnes n'ont pas le droit de vendre à Paris. Et la vente dès 1980 est mythique. Parce que je pense que tout le monde avait un peu oublié le Maharaja d'Indore. On connaissait des documents, des photographies et tout d'un coup on vend sous le marteau des pièces incroyables qui vont fasciner des gens comme Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Pierre Berger. Et dès 1980, il y a une sorte de mythe revivifié du Maharaja, et puis après toutes ces pièces partent dans les collections privées et on l'oublie à nouveau.
Et puis il y a récemment une vente aussi d'un tableau extraordinaire de Boutet de Montvel, et au fond cette vente, je me suis demandé, pas la vente elle-même, mais ce tableau plus exactement, qui est un portrait du Maharaja, je me suis demandé si ce n'était pas le coup de départ, le coup de gong qui donne le départ de l'aventure intellectuelle que ce Maharaja représente.
Absolument, parce que le Maharaja et la Maharani vont se faire peindre, portraiturer par le peintre mondain de l'époque, Bernard Boutet de Montvel, qui est un homme qui est très impressionné aussi par la peinture américaine de la même époque. C'est un choix pas du tout anecdotique, parce que c'est un peintre qui aime les stars, aime les grands de ce monde. Et ce portrait, en effet, alors il y en a plusieurs versions, c'est une autre version que celle qu'on présente qui a été vendue récemment à Paris. Ce double portrait est fascinant, il va être uni pour la première fois au double portrait de la Maharani, parce qu'on a souvent vu celui du Maharaja, on le connaissait bien, mais celui de la Maharani était resté en Inde pendant très longtemps, donc on va les réunir tous les quatre ensemble pour la première fois depuis très longtemps. En fait, le Maharaja se fait présenter en costume traditionnel, avec tout l'apparat de sa charge royale, mais aussi en tenue du soir, magnifique, smoking, sublime. Et la Maharani, de la même façon, va être représentée dans une robe traditionnelle, et un autre portrait la représente en robe du soir, sublime, portant un collier fabuleux, où pendent les deux fameuses poires d'Indore, qui sont deux diamants assez mythiques.
Qui avait été acquis à Chaumet, je crois.
Absolument, et dont on ne sait plus vraiment où ils sont aujourd'hui. Le collier a été démembré. Et les poires d'Indore participent de la mythologie autour du personnage et du couple.
Il y a une quête amusante à faire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les deux tableaux à nouveau, Raphaël ? Parce que Olivier a commencé, mais allons un peu plus loin. Parce que c'est ce Boutet de Montvel, d'ailleurs, vous le disiez, c'est un peintre mondain, mais c'est quand même aussi... exactement le peintre de l'art déco, s'il y avait un style en peinture art déco et non pas seulement cubiste ou bien nouvelle subjectivité, etc. On y est, non ?
Tout à fait. Il incarne en fait maintenant l'art déco en réalité.
C'est mon rectiligne de l'art déco.
Exactement. Et en fait, si on pouvait décrire, disons qu'il a fait deux premiers portraits en tenue occidentale où ils ont des tenues de soirée très élégantes. Et ils lui commanderont plus tard deux tenues traditionnelles dans un style un petit peu différent.
Mais c'est bizarre d'avoir demandé à Boutet de Montvel, on aurait pu demander à Vendongen, le peintre à la mode pour faire les grandes dames de l'époque, c'était Vendongen, non ?
Bah oui, mais je pense qu'il y a une modernité dans la peinture de Boutet de Montvel, qui est aussi le peintre de certaines vues industrielles. Vous parliez de côté rectiligne, c'est vrai que c'est le peintre de l'art déco au sens où il y a une sorte de raideur très réaliste comme ça, qui a séduit le Maharaja. Le Maharaja, par ailleurs, était quelqu'un qui a été passionné de l'abstraction, un passionné de la photographie avec une amitié pour Man Ray très très forte. Mais dans ses portraits, il y a quelque chose d'assez mystérieux, d'une part parce que je crois que c'est la fascination de la dualité de ses personnalités, cette tension entre le monde oriental et l'Occident, et en même temps, cette volonté de... Boutet de Montvel, quand même, avait une jolie clientèle à l'époque, et notamment dans ce qu'on appelle le gratin, toute l'aristocratie française, les gens chics, la grande bourgeoisie, mais bien justement le côté un petit peu aride, un petit peu métallique de sa peinture, assez sensuel aussi. Vendongen, c'est un peu plus olé olé, et je pense que quand même dans l'effort d'avant-garde que représente le souhait du Maharaja de ce rêve moderne qu'est cette aventure de son palais Manningbag et ses commandes à de très nombreux artistes de l'époque. Peut-être la volonté aussi, par moment, de trouver une effigie qui soit aussi, je trouve, assez adaptée à son statut princier important.
Vous parlez du statut princier, Olivier Gabay, mais au fond, qu'est-ce qu'un Maharaja ?
Alors un Maharaja, surtout, alors là nous sommes dans, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes dans les années 30, la grande date fatidique c'est 1947 pour tous ces gens, avec l'avènement de la République indienne, le départ de l'Empire britannique, du Raj, sachant que le Maharaja d'Indore a été un des derniers à signer son acte d'abdication au profit de la République indienne. Quelqu'un d'assez farfelu et résistant et pas du tout dans ce mouvement-là. Alors c'est vrai que depuis l'occupation britannique et le milieu du 19e siècle, la plupart de ces Maharajas sont sous contrôle très 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 serré et très étroit de l'Empire britannique, mais ils ont été conservés cependant pour leur rôle symbolique très fort, puisque finalement ils sont aussi la capacité de fédérer autour d'eux des nations qui sont extrêmement morcelées, et l'unité indienne, on le voit encore aujourd'hui, est quelque chose de très fragile, et finalement ces Maharajas occupe à l'époque un rôle qui n'est pas négligeable de représentation et peut-être de sorte de concentration comme ça d'attention sur une figure majeure. C'est bien pour ça d'ailleurs que les Anglais feront toujours en sorte de contrôler aussi l'éducation de ces jeunes princes, et le Maharaja en l'occurrence est un merveilleux exemple puisqu'il va faire ses études à Oxford, et que c'est ces études à Oxford qui vont complètement modifier sa vision de ce qu'est l'Inde ancestrale et le plonger dans la modernité.
Je pensais à une phrase assez amusante que j'ai relevée quelque part. Il écrivait la célèbre histoire de ce Maharaja élevé dans un collège d'Oxford, c'est quasiment le nôtre, qui finit par s'apercevoir qu'il ne pourra jamais être heureux car le bonheur des Européens n'est pas pour lui et le bonheur des Hindous n'est plus pour lui. Et au fond, il y a une certaine saveur mélancolique dans l'ensemble de cela, sauf pendant ces 10-12 ans, au fond.
Mais je pense que même pendant ces 10-12 ans, il y avait une forme de mélancolie. D'abord, ce qui est dans l'enquête, on parlait à l'instant Raphaël, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les angles morts, ce qu'on ne sait pas, il n'a pas écrit sur lui, il n'a pas laissé de souvenirs particuliers. Il a eu deux enfants, un de son mariage avec la Maharani, un autre de son deuxième mariage, qui nous ont relativement peu parlé de leur père, qui est une figure un peu énigmatique. Je pense que la Maharani a joué un rôle très important, mais...
Qui a été épousée quand elle avait 10 ans. Hein. Donc là, on parle d'un jeune homme qui commence l'aventure dont nous parlons, qui doit avoir à peu près 30 ans quand il commence cette aventure. Et sa femme, donc elle a 20 ans.
Un couple très jeune, c'est assez fabuleux. La Maharani va mourir assez jeune, et c'est vrai qu'après le décès de la Maharani, l'élan qui est porté pour ce palais des temps modernes va être quand même sévèrement arrêté. Et il y a quelque chose de très mélancolique, c'est très crépusculaire. La fin du Maharaja est assez triste, il se promène entre le sud de la France et les États-Unis avec le prestige de son nom, le souvenir de ce qu'il a laissé dans la vie artistique, culturelle parisienne. Il y a matière à un film, matière à un roman, ça c'est évident.
Alors Raphaël Billet, donc c'est un roman, c'est le roman d'une œuvre d'art totale, du désir d'une œuvre d'art totale, d'un couple qui se dit on va être... c'est quelque chose comme ça ?
C'est quelque chose qui a mûri, c'est-à-dire qu'il voulait se faire faire un palais, puisque son père abdique. Donc il souhaite se faire un palais, et puis il fait des rencontres qui vont tout transformer. La plus importante, c'est sans doute celle de effectivement Henri Pierre Rocher, qui va rencontrer par l'intermédiaire de son précepteur, un Belge qui s'appelle le docteur Hardy.
C'est quel trop mystérieux personnage, hein. Ça, il faudra qu'on raconte tout ça. Parce que c'est ça la constellation, il y a ce couple... Oui. Il y a un conseiller qui indique le professeur Hardy qui pourrait être intéressant. C'est le fameux Patrick Guedes, non ?
C'est le fameux urbaniste qui va...
Urbaniste, psychologue, sexologue et autres.
Ouais. Ils avaient tous plusieurs casquettes à l'époque. Et lui, il va être le professeur du précepteur du Maharaja.
Donc le fameux professeur Hardy sera le professeur du professeur Hardy.
Exactement. Donc il était entouré de progressistes. C'était les premiers écologistes aussi. Ils vont écrire des livres sur la sexualité à une époque où effectivement c'était sans doute moins facile. Donc on pense que ça a créé un espèce de terreau progressiste autour du Maharaja et de son éducation.
Et puis l'admiration aussi de ce fameux Patrick Guedes, urbaniste, sexologue et autres. L'amitié quasiment pour... est-ce que c'est bien lui ? Je me trompe peut-être. Hein, pour McIntosh ?
Tout à fait.
C'est-à-dire McIntosh, l'architecte de l'école de Glasgow, et qui a brûlé malheureusement il y a un an et demi maintenant. Et
deuxième fois même.
Ouais. Deuxième fois,
ouais. Oui, effectivement, il lui avait commandé des éléments urbains pour des villes en Inde. On ne sait pas exactement lesquelles, mais on a retrouvé effectivement dans les archives de Guedes en Écosse. Des dessins de McIntosh.
Alors, révélons tout de suite. Donc, nous avons Henri-Pierre Rocher, vous le signaliez toujours, l'auteur de Julie Jim, de Deux Anglais sur le continent, etc. Et puis, c'est en dehors de ces deux personnages mystérieux qui sont un petit peu des mentors, au fond, il y a une constellation d'artistes. Alors, ça va de... quoi, il y a Le Corbusier, puis Forca...
Hélène Gray...
L'architecte du palais.
Oui, Eckhart Mitsessus, qui va faire la majorité du mobilier et des luminaires, et qui va faire un travail de metteur en scène, en fait, de tous ces achats, de toutes ces commandes du Maharaja, parce qu'il fallait créer une cohérence.
Un photographe fameux.
Man Ray.
Ouais. Un sculpteur secondaire.
Brancusi.
Voilà. Par exemple. Hein, donc c'est, il se passe quelque chose. Et tout commence donc, vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, avec Boutet de Montvel. Et donc Boutet de Montvel reçoit un coup de fil, grosso modo, et en tout cas est averti par sa femme que le Maharaja pense à lui. Écoutons-le.
« 17 janvier 1928. J'oubliais. Ciel, j'oubliais de te dire que le pape a aiguillé vers toi le fils du Maharaja d'Indore, beau comme un astre, sportif et aimant les arts. Il veut son portrait. Il est de passage à Paris, et en l'absence du maître, il viendra me voir ta maison. À ton retour, profitant de quelques vacances car il s'éduque en Angleterre, il se fera mettre au carreau. J'attends donc sa visite ces jours-ci, car il rentre en pension samedi. La maison sera dans son beau, l'épouse aussi. 21 janvier 1928. Hier, visite du Maharaja. Car lui-même, en vertu de l'abdication de son père, bénéficie de ce titre. très curieux personnage, plein de caractère. Cela t'amuserait follement de l'empoigner et de le carreler, j'en suis sûre. Mais ce qui me semble encore plus intéressant, c'est qu'il possède à Indore un palais magnifique dont l'agencement intérieur lui déplaît. Tout est à refaire. Le factotum m'a demandé si la décoration t'intéresse. Tu parles, je lui ai dit en d'autres termes que tu en raffoles. Le pape, qui se trouve être l'intermédiaire, s'était sacrifié et a assisté à l'entrevue. Quel brave garçon! Le Maharaja est noir comme de l'encre, avec de longs et grands yeux comme les gravures persanes. Longue main fine, maigre à souhait. Pas joli, mais grand caractère. Je le couve et en idée, je le mets au carreau. En son honneur, on a retourné le portrait de Hart.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons avec Olivier Gabet, le directeur du musée d'art décoratif et Raphaël Billet, la commissaire de l'exposition Le Maharaja moderne, du Maharaja d'Indore et de son œuvre inouïe, cette sorte d'œuvre d'art totale qu'il a fait entre 1925 et 1937 à peu près, non Raphaël?
1929 et...
Je me suis trompé.
Non, c'est pas grave.
On arrête l'émission. Non, vous avez raison, c'est 1929 en effet.
1929-1933 à peu près.
Est-ce que vous, quand vous regardez les photos du Maharaja, vous trouvez pas qu'il a un physique très étrange,
c'est un
insecte sublime?
Non, rien que le personnage était déjà fascinant en lui-même. Et je pense que d'ailleurs, il fascinait les gens qu'il rencontrait.
Surtout, je pense que dans l'imaginaire parisien, européen, on avait vu d'autres Maharajas quand même à Paris. Et Dieu sait s'ils inondaient la place Vendôme de leurs commandes, de leurs commissions, etc. Mais c'est vrai que souvent, généralement, c'était des Maharajas. Alors, les Maharanis étaient assez belles quand elles se montraient, et elles fascinaient assez le public, mais les Maharajas, souvent, étaient, comme on voit, suite de Bataliya, de Baroda, c'est des gens assez solides, plantureux. Tout d'un coup, on voit un physique d'acteur de cinéma. Enfin, je veux dire, on est quand même dans les grands élans du cinéma muet. Et puis surtout, cette volonté comme ça, très moderne, qui stupéfie un petit peu la scène artistique parisienne. On est en 1929 quand il commence à vraiment prendre son envol. On peut faire remarquer que les Noailles et la Villa, etc., c'est déjà un peu derrière nous. Et Jacques Doucet meurt en 29. Donc tous ces grands artistes, ces décorateurs, qui ont eu l'habitude d'avoir quelques grands mécènes derrière eux, tout d'un coup, et c'est quand même un coup du sort incroyable, se retrouvent face à un mécène éclairé, informé, et qui est un prince indien, ce qui est quand même un peu inattendu pour le moins.
Tout à fait. Et alors, donc le portrait est fait. Maintenant, il y a le portrait de la Maharani à faire. Ensuite, il va y avoir quelques autres portraits qui vont venir avec Man Ray. Est-ce que, juste avant de parler de Man Ray, parce que ça va être important aussi dans l'aventure, écoutons peut-être ce que dit Boutet de Montvel sur le succès de sa peinture, parce que on a dit qu'il venait de recevoir cette commande, mais il faut se rendre compte que ça va être un choc aux États-Unis et que Boutet de Montvel, souvent, vous le rappeliez, Olivier Gabet, souvent sous-estimé, est dans l'esprit précisionniste des Schiller, par exemple, un très grand artiste. L'œuvre qui est au Centre Pompidou, cette usine extraordinaire,
c'est un chef-d'œuvre.
Donc c'est un artiste qui est en marge et c'était aussi un héros de la guerre, donc c'était un des grands aviateurs de l'époque, etc. Donc c'est un très bel homme, je crois.
Très bel homme.
Donc ce très bel homme va avoir du succès à New York. Écoutons ce qui se passe.
10 janvier 1934. Ici, je suis véritablement harassé de travail. Le maudit fond de la Maharani m'a fait perdre des semaines, plus que le portrait lui-même. Je voulais d'abord un carrelage et un fond de paysage. Après avoir perdu près d'une semaine à le dessiner, j'y ai renoncé et l'effacer a été tout un travail. Je suis revenu à ma première idée de peau de fleurs. Ça a été affreusement laborieux et c'est à peine fini. D'ailleurs ravissant, il me semble après mille angoisses. Je crois que l'exposition des deux toiles va être assez saisissante, mais ceci a retardé terriblement mon travail.
Alors voilà l'aventure très spectaculaire et un énorme succès de Boutet de Montvel à New York sur ces deux portraits. Raphaël Billet, dites-moi un petit peu la suite des portraits, puisqu'il y a on sent un couple en lune de miel quasiment, qui tout d'un coup a un projet, a un amour, a un lieu, a de l'argent à n'en plus finir. Il y a un autre personnage qui arrive, qui lui est modeste et sûrement a besoin un peu d'argent aussi. Je ne sais pas qui l'amène, Man Ray.
Alors, a priori, ce serait Henri-Pierre Roger qui...
Ah, Duchamp, évidemment.
Voilà, exactement, qui les met en contact. L'histoire que raconte Man Ray dans son autobiographie, c'est qu'il souhaitait le rencontrer pour photographier son cheval. Et puis, de fil en aiguille, il aurait été tellement satisfait des clichés du cheval que, du coup, il décide de lui commander plusieurs séries de portraits. Donc on a retrouvé les différentes séries de portraits. L'exposition nous permet aujourd'hui de pouvoir les présenter au public.
Alors les portraits sont très beaux. En général, c'est des portraits, pas seulement, mais il y en a quelques-uns qui sont des portraits en contemplation devant des objets, Olivier Gabet.
Oui, c'est très presque mystique. Alors c'est vrai qu'on connaît ces... peut-être plus les portraits du couple ne sont pas pour autant
anecdotiques,
parce que même si on ne sait jamais vraiment quelle était la destination de ces portraits, sans doute quelque chose de très intime. C'est pas fait pour être montré à un d'or dans des manifestations publiques, très clairement, parce que la Maharani a des positions assez incroyables. Enfin, ça témoigne d'une liberté même de sa part à elle d'accepter de poser la tête renversée. Il y a des jeux très beaux. C'est un peu la blanche et le masque africain. On sent que c'est quand même dans la poursuite de cette recherche-là. Donc c'est clair que c'est quelque chose d'un petit peu inattendu, un petit peu inédit. Et puis en effet, ces photographies qui témoignent, je trouve, encore d'une autre forme d'intimité, qui sont des photographies prises par Man Ray du couple, admirant des œuvres d'art, notamment des pièces de verre, des pièces lumineuses, comme une sorte de nativité presque. C'est très très bizarre, très un peu mystique. Et je pense que, connaissant pas forcément très bien l'œuvre de Man Ray, et puis jugeant de la part de mystère qui reste sur le Maharaja et la Maharani, il y a quelque chose. Enfin, je ne vois pas comment ce genre de photographie a été prise à la légère. Enfin, il y a quand même eu un minimum de connivence et de complicité pour la faire. Alors, est-ce que c'est sur l'aspect presque de l'enfance de l'art, ou l'enfant est là, ou je ne sais, ils auront une fille ensemble, hein, qui vit toujours, la Maharani Usha Devi. Mais il y a quelque chose de très très énigmatique, parce qu'il est quand même très rare d'avoir des photographies de collectionneurs en admiration ou en contemplation devant une œuvre de leur collection.
Et donc ces coupes qui sont là, ce sont les coupes d'ailleurs d'une sorte d'orfèvre éphémère.
Oui, c'est une maison qui aujourd'hui est complètement oubliée, parce que elle a duré très très peu de temps, entre 1927 et 1933. C'est la maison d'Esny.
Très belle, hein, c'est très beau.
Qui ont fait des œuvres incroyables. En fait, on ne sait pas vraiment qui est le concepteur réellement, puisqu'on connaît le nom de celui qui a créé cette maison, mais il avait des dessinateurs. Donc si ça se trouve, c'était un dessinateur de génie qui était dans cette maison. En fait, on l'ignore. Le mystère reste à
mais l'important, c'est que le génie soit là. Il y a un
génie.
C'est
ça,
le génie.
Elles
sont d'une beauté, ces coupes sont d'une beauté incroyable. C'est très, très frappant sur les images de Man Ray. Je ne sais pas si elles sont aussi belles en vrai, mais sur les images de Man Ray, c'est incroyable. Ouais. Et c'est vrai que c'était une sorte de drôle d'idée pour le Maharaja de commander à Man Ray les photos de chevaux, alors qu'il préfère les dames, par exemple.
Bah oui, et on le voit, on voit quand même dans les photographies de Man Ray la fascination qu'exerce sur lui la Maharani, qui est troublante. Et puis je pense que c'est une femme. Vous le disiez à l'instant, c'est un couple promis l'un à l'autre très très jeune dans la tradition des grandes cours indiennes, tradition ancestrale. En même temps, c'est une jeune femme plutôt éduquée. Et parce que justement ils ont été promis l'un à l'autre très jeunes, qui a connu Moutessius et Henri-Pierre Rocher de façon très très naturelle et très évidente, alors que voilà, elle aurait pu dans un autre cas de figure être enfermée dans son palais et n'avoir qu'une connaissance très lointaine. Donc ça dénote aussi de la part du Maharaja une forme de modernité aussi dans la façon d'associer son épouse très publiquement. On a des films incroyables de cérémonie officielle à Indore, où on la voit apparaître, mais là on est encore dans un autre cas de figure. Et c'est vrai que c'est sans doute ça compte beaucoup, je pense, dans la fascination que Man Ray a pour cette Maharani modèle.
Alors, on a reparlé d'Henri Pierre Rocher. Quand vous dites que la Maharani est en contact avec Henri Pierre Rocher, ça fait peur, parce qu'Henri Pierre Rocher, c'est la liberté même. Hein, c'est la figure absolue de la liberté qui explore ce que c'est que vivre de toutes les façons possibles.
Sans doute qu'il était... on imagine la fascination d'Henri Pierre Rocher, qui n'était pas quelqu'un qui devait se lasser facilement des choses et des situations. Ça devait être quand même très fascinant aussi, parce que je pense qu'il y a quand même une tension sensuelle dans ce couple qui ne peut que frapper quelqu'un qui a en effet écrit Jules et Jim, me semble-t-il. Et en même temps, Henri Pierre Rocher, c'est quand même le coup de génie, parce que c'est s'abreuver de conseils à une des meilleures sources qui soit. Dans la Paris de cette époque-là, et pas des conseillers faciles. C'est pas on n'est pas chez Wildenstein ou chez Guimpel ou chez ces grands marchands-là. On est vraiment dans l'avant-garde la plus pointue.
La plus pointue, c'est Henri Pierre Rocher qui a fait découvrir à Gertrude et Léo Stein Picasso. C'est quand même extraordinaire. Et Doucet donc qui apparaît, qu'il va introduire à Picasso. Ça, également, et qui va introduire au Maharaja. Oui. Comment est-ce que vous pouvez dire un petit mot de ce Doucet que va redécouvrir le Maharaja? Qu'est-ce que c'est pour lui? Qu'est-ce que ça va représenter?
Alors, Jacques Doucet, à l'époque, c'est quand même c'est plus vraiment un couturier, c'est surtout le plus grand mécène de l'art moderne et de l'art déco de la période. Le studio à Neuilly, c'est quelque chose qui est déjà mythique. Et ce qui est passionnant, c'est cette lettre que Raphaël et Louise ont retrouvée dans les archives de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris. Une lettre d'Henri-Pierre Rocher à Jacques Doucet, lui transmettant lui-même une lettre du Maharaja, et dans laquelle le Maharaja remercie Jacques Doucet d'avoir passé beaucoup de temps à lui montrer le studio, ses collections, ses projets décoratifs. On est en 1929, on est très peu de temps avant la mort de Jacques Doucet même. Et il y a quand même un symbole de transmission très fort, c'est-à-dire que le Maharaja, ce jeune Maharaja était comme un des derniers à voir le studio de Jacques Doucet en l'état, puisque très vite après la mort de Jacques Doucet, Madame Doucet va commencer à faire des donations, va commencer à vendre des œuvres. Ce très vieil homme, complètement génial, et ce tout jeune prince, ont passé une demi-journée ensemble, ont passé des heures à regarder des œuvres tous les deux. Je trouve que c'est quand même assez fascinant quand on pense à l'histoire du goût, à l'histoire de l'art, et surtout à ce que représente à l'époque Jacques Doucet, au-delà même du fait que, comme Jacques Doucet va mourir, un certain nombre de grands artistes, qui sont d'ailleurs associés au projet du Palais d'Indor, vont se retrouver un petit peu mal en point, parce que le grand mécène, celui qui dépensait sans compter, celui qui les soutenait avec beaucoup de chaleur, avec aussi beaucoup de moyens financiers, vient de disparaître, et qu'il est remplacé d'une certaine manière par ce jeune prince indien.
Alors écoutons la lettre.
Cher Monsieur Doucet, je ne puis quitter l'Europe et rentrer dans mon pays sans vous dire combien ont été délicieux les trop courts moments que j'ai eu l'avantage de passer en votre compagnie, au milieu de toutes vos beautés, et sans vous en marquer ma reconnaissance. Je souhaiterais que vous ne m'accusiez pas d'exagération si je vous dis très simplement que les 2 heures de ma visite chez vous ont compté parmi les meilleures que j'ai passées à Paris et en France, donc en Europe. Ce sont là de rares impressions que j'emporte jalousement avec moi et qui me dureront. Et vos commentaires et vos conseils ne m'ont pas été moins précieux. Maharaja Holkar.
Quand on rencontre une source d'inspiration pareille, on a envie d'y aller, c'est ce qui est arrivé au Maharaja. Et il faut donc maintenant faire revivre un palais. Il faut avoir un palais privé, en tout cas, à la hauteur de ce mécène qu'il admire. Qu'est-ce qui va se passer, Raphaël Billet? Alors, là, il va falloir choisir un architecte. Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, la rencontre de Doucet va faire basculer complètement le projet vers la modernité. Il va décider d'être finalement de mettre une dose de radicalité plus importante. Et donc, il va rencontrer ce jeune architecte à Oxford. et qui est aussi passionné que lui de modernité. Ils ont à peu près le même âge, à quelque chose près.
Le jeune architecte dont vous parlez, vous pouvez redire son nom ?
Eckhard Mutesius, ouais. Qui est en fait le fils d'Hermann Mutesius, l'un des très grands théoriciens et architectes allemands. Et du coup, ils ont tellement d'affinités qu'il lui propose rapidement de travailler avec lui pour rebâtir un palais complètement à zéro.
Et jusqu'à la guerre, il va se dévouer complètement pour le Maharaja, en fait.
Totalement.
Et ce palais, il est véritablement un succès du point de vue de l'architecture. Et est-ce que Mathusius est vraiment seulement l'architecte, ou est-ce qu'il va beaucoup plus loin dans sa définition des espaces ?
Non, il n'est pas seulement l'architecte, puisqu'il va également être en charge d'une grande partie du mobilier et également de la mise en scène, en fait, de tous les achats du Maharaja à tous les créateurs, toutes les commandes, pour créer un ensemble cohérent et homogène. Donc, il va faire tout ce travail en plus, effectivement.
Et vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est une réussite ? Olivier Gabay, vous aurez peut-être un point de vue là-dessus.
Est-ce que c'est une réussite ? Quand on regarde les façades, et on sait que visiblement Mutesius est quand même parti d'éléments qui existent, qui préexistaient, enfin, donc c'est pas une création ex nihilo. Je suis pas certain que c'est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne.
Il a eu beaucoup de contraintes liées au climat,
et puis aussi à la sorte de dualité entre ce bâtiment d'ordre privé moderne et l'autre palais, parce qu'il y avait plusieurs palais à Indore, les autres palais qui étaient eux utilisés pour les éléments de représentation politique.
Alors on n'a pas dit peut-être à nos auditeurs, Indore c'est au centre de l'Inde.
Absolument.
On est à peu près à 400 mètres d'altitude. Il fait la température la plus basse, c'est 1 degré. La plus haute, c'est 31 degrés. Il pleut 20 jours par an. Je n'ai pas la suite. Mais c'est à peu près ça. Ça donne un climat. Et d'ailleurs, il y a de l'air conditionné.
Absolument. Ça fait partie du travail aussi que Mutesius va mettre en avant comme chef d'orchestre. Après, je pense que c'est une réussite en termes de communication. Mutesius est très très fort en termes de photographie. C'est un palais qui va être très connu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de photographies.
Il est connu pour ce qu'il est, ou racontez-nous cette histoire de photographie. Vous avez l'air de laisser entendre quelque chose.
Je crois que Mutesius a su, et Louise et Raphaël ont trouvé des merveilles et des pépites dans les archives Mutesius, puisque sa dernière épouse vit toujours à Berlin et que elles ont eu accès, grâce à la générosité de Vera Mutesius, à une quantité d'archives assez extraordinaire. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on voit quelques photos de l'extérieur. On a des films, et on montre en exposition des films amateurs de Mutesius qui présentent un peu la vie à Indore et la vie dans le palais, même le chantier de la construction. Et puis surtout, ce qu'on a, c'est beaucoup, beaucoup de photographies de l'intérieur où on sent que, aussi architecte qu'il soit, il apparaît presque plutôt comme un grand décorateur et comme un grand ensemblier. Et Indore va être... C'est quand même assez fabuleux. Raphaël le disait à l'instant, ils se sont connus à Oxford. Ils sont tout jeunes. Mutesius, il a quasiment rien construit, si ce n'est ou même rien construit du tout. Comme un des hommes les plus riches d'Inde, parce qu'ils s'entendent bien, lui confie un chantier qui est resté dans l'histoire du XXe siècle comme quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une aventure encore plus sympathique, je dirais, parce que là, on a de très très jeunes trentenaires qui se lancent dans une aventure architecturale et décorative assez incroyable. Donc Mutesius, je pense qu'il a tenté sa chance et qu'il a compris aussi que c'était une chance incroyable de se faire connaître.
Mais c'est aussi sympa quand on est une bande de jeunes, de travailler ensemble et de rêver ensemble. Écoutons la façon dont il raconte sa rencontre.
Je fis la rencontre de Son Altesse à Oxford grâce au docteur Marcel Hardy, professeur de botanique. Ce dernier m'amena à une fête organisée à la Eddington House où résidait Son Altesse. J'eus l'honneur de faire sa connaissance. Et j'appris qu'il était sur le point de se faire construire un palais en Inde. Les plans étaient initialement réalisés par un architecte français reconnu, dont je ne connus jamais le nom. Son Altesse me convoqua dans une chambre spacieuse, où nous pouvions dérouler ses plans sur un tapis. Aussitôt, je découvris que ce projet n'était pas adapté au climat indien. Après 2 heures, Il me demanda si je me sentais capable de construire son palais. Je fus étonnée, mais sans aucune hésitation, j'acceptai. Cela marqua le début de ma carrière et le plus grand moment de ma vie professionnelle. Je me précipitai à Berlin, abandonnai mes études à Londres et commençai à travailler. Après 3 semaines, je retournai à Oxford avec de nouveaux plans et dessins pour des aménagements et des décorations pour les intérieurs, après avoir collaboré avec une équipe de 15 personnes. Nous avions travaillé jour et nuit.
France Culture, l'art et la matière. Jean de Loisy.
Et nous sommes en train de construire Olivier Gabet, Raphaël Billet, Mathesius et le Maharaja. On est en plein travail en train de construire un palais. Et ce palais donc subit des contraintes, puisque vous le disiez, Olivier Gabet, il y a les questions de climat. Et curieusement, les photos que j'ai vues dans l'exposition, les photos cet extraordinaire palais, ne ressemblent pas aux photos que j'ai vues publiées par ailleurs par l'architecte.
Tout à fait. C'est un point qu'on a souhaité avec Louise Curtis souligner, puisque on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'en fait les images qu'on voyait du palais réel et toutes les photos publiées étaient totalement différentes, puisque dans un cas on avait un vrai toit, la réalité. Et sur ces photos diffusées, un toit plat à l'image de l'architecture la plus contemporaine de l'époque et la plus avant-gardiste.
Il était obligé de faire un toit à pente pour le climat, probablement.
Exactement, à cause du climat. Et donc, de ce fait, je pense que ça a été une grande déception de ne pas pouvoir faire, pour sa première grande architecture, le type d'architecture qu'il aurait souhaité faire et que sans doute le Maharaja aurait souhaité avoir. Et du coup, il s'est résolu, et sûrement avec l'accord du Maharaja, à se contenter de communiquer sur une image qui n'a jamais existé.
Habile. Mais donc ça lui faisait une réputation en Europe d'avant-garde que la réalité du palais ne pouvait pas tellement lui donner. Alors ce palais, à l'intérieur, il est décoré, aménagé. Il y a des artistes ou grands artisans, des maîtres d'art qui travaillent. Comment vont être choisis? Est-ce que le Maharaja s'implique dans le choix?
Ah oui.
Olivier Gabet.
Oui, totalement. Et là, on sent on parle d'histoire à tiroir et de cercle et de constellation. Il y a une alchimie qui se fait entre lui et Mathesius, plus Henri-Pierre Rocher, qui connaît sans doute la scène parisienne quand même beaucoup mieux que Mathesius. D'ailleurs, il y a un assez joli mélange dans le palais entre Marcel Breuer, Lili Reich, on va dire le volet allemand de la chose, et puis tout ce qu'il y a de plus hype, on dirait aujourd'hui, en termes de décoration et d'objets. Côté français, parce que Alan Gray, c'est l'iconique.
C'est l'Irlande, mais la France.
Voilà, mais c'est la France, Alan Gray. L'iconique fauteuil Transat, c'est Le Corbusier, c'est Louis Sognaux et Charlotte Alix, c'est Da Silva Brun pour les tapis, c'est Puy Forcat pour l'orfèvrerie. Et Puy Forcat va même lui d'ailleurs dessiner le monogramme.
Et Puy Forcat était connu pour ses monogrammes, je crois.
Oui.
C'était une de ses spécialités.
On en présente que quelques très beau dans l'exposition.
Ouais. Mais alors, là, vous citez Alan Gray, puis Forcat, on les connaît, mais il y a quelques créateurs dont j'ai oublié le nom, par exemple le créateur du lit de la Maharani.
Louis et Charlotte Alix.
Oui, on les connaît moins bien, enfin le grand public que je suis le connaît moins bien.
Tout à fait, ils sont très méconnus, alors qu'à l'époque, ils étaient très importants.
Ah oui?
Et oui, ça fait partie de ces quelques créateurs finalement qui ont fait partie de la scène moderniste. Et généralement, dans les années 30, il y a eu un refus un petit peu de la modernité, un retour à l'ordre. Et ils en ont subi un petit peu les conséquences. Donc du coup, ils ont été un petit peu oubliés. Il n'y a pas eu d'ouvrage sur eux. Encore aujourd'hui, donc voilà.
Ça vous laisse l'occasion de publier quelque chose, de faire une petite expo en plus.
Peut-être.
Non, on ne sait jamais. Mais donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai l'impression que le Maharaja
va voir les salons, va voir où ça se passe, quoi.
Complètement. Et ça nous touche d'autant plus que dans la nef du musée décoratif, à l'époque, se tiennent quelques grands salons. Le Salon des artistes décorateurs et les premiers salons de l'UAM ont lieu au musée décoratif. Donc, chez nous, dans la même nef où il est présenté aujourd'hui.
Et donc, c'est là qu'il les a découverts.
C'est là où il les découvre et c'est là où on voit qu'il est particulièrement bien cornaqué et conseillé. Et c'est là aussi où on découvre assez vite que tous ces créateurs, ma foi, sont très pragmatiques et très malins et se rendent compte très vite qu'il y a ce jeune prince indien qui construit ce palais et qui le décore.
Ah, il y a l'histoire Ruhlmann, Raphaël. Racontez-nous cette histoire Ruhlmann.
C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, après la mort de Jacques Doucet et avec le début de la crise, des effets de la crise de 29 en France, à peu près tous les commanditaires disparaissent. Donc les créateurs sont dans l'attente d'un nouveau commanditaire espéré. Et donc très vite bruisse dans tout Paris de la présence de ce prince qui cherche à meubler son nouveau palais. Et tous les créateurs commencent à créer des stands qui lui sont complètement dédiés. Alors le stand de Ruhlmann en 1929 présente une carte de l'Inde géante. Donc les dédicaces sont
lourd, non, quand même.
à peine dissimulées.
Bon, Ruhlmann, c'est une figure à l'époque. Il faut se rendre compte que le maréchal Lyautey lui commande le bureau du ministre des colonies. C'est un immense créateur qui n'est pas un ébéniste en plus. Hein, mais c'est un.
Tout à fait. Et alors le Maharaja, quand même, souhaite garder son propre goût. Et donc, à chaque fois, la proposition de Ruhlmann a été modifiée. C'est-à-dire, il a choisi un autre bois.
Ah oui.
Oui, il a affirmé sa personnalité.
Faut pas me prendre pour un débutant, quoi. Voilà.
Il aimait bien ce qu'on dirait customisé aujourd'hui. Ouais. Alors, pièces qu'il achetait.
Vous parlez de customiser, ça m'amène à un sujet qui m'intéresse aussi, qui nous intéresse aussi, c'est que on se dit il y a un palais, il y a des meubles, tout ça, ils sont sublimes, forcément, mais il y a aussi des tentes, des voitures, des avions, des péniches, des bateaux. Dessiné, tout est dessiné.
Tout est dessiné, et c'est là où on voit que c'est un Maharaja moderne, c'est-à-dire que c'est pas les éléphants blancs et les parures de bijoux, même si c'est un très bon client de la place Vendôme. C'est pas ça qu'on a d'ailleurs voulu mettre en avant dans cette exposition, parce que c'était autre chose qui nous intéressait, parce que c'est beaucoup plus perturbant, donc beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que on sent une plongée dans la modernité, c'est-à-dire qu'il y a la maison au bord de l'eau, il y a le train, il y a l'avion, c'est quelqu'un qui est passionné de voitures, passionné de cinéma, passionné de jazz, c'est vraiment le monde moderne. C'est pas juste, en effet, la beauté d'un palais bien décoré. On sent qu'on est au-delà de ce
le décor de l'intérieur du train est fantastique. Les deux camions qui se réunissent pour faire la tente du Maharaja, c'est dingue.
C'est époustouflant.
La péniche qui n'a pas été construite, je
non,
crois.
Non.
Elle est d'une beauté, mais elle est à construire. Ce serait un monument pour Paris, fantastique.
Absolument.
C'est une annexe du musée d'art déco. Vous êtes pas loin de la Seine, faut en profiter.
Écoutez, c'est une suggestion qu'on peut retenir et étudier. Non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant parce qu'on sent bien que ce palais n'est pas l'histoire d'une folie passagère. On sent que tout est pensé avec un certain point de vue et dans une certaine perspective, et c'est encore plus touchant, je trouve. Même si on sent bien que là encore, la mort de la Maharani met un coup d'arrêt à la plupart de la création de ces projets annexes au palais lui-même.
Alors encore une dernière allusion peut-être à cet environnement, après on va parler de choses sérieuses, c'est-à-dire d'art, mais il y a des tapis extraordinaires, une créatrice de tapis que je trouve mais d'une puissance et d'une beauté folle. Qui est-ce, Raphaël Billet, dites-nous.
Alors en fait c'est Ivan da Silva Bruns, qui est d'origine brésilienne et qui a travaillé en France toute sa vie. Et qui était assez célèbre d'ailleurs. Il était utilisé employé par tous les grands créateurs de l'époque. Donc lui aussi avait une vraie renommée d'ampleur à l'époque. Et malheureusement a été un peu oublié du grand public.
Des techniques de teinture inspirées du Maroc, enfin des choses.
Oui.
Un raffinement fou.
Exactement. Non, on est assez stupéfait quand on redécouvre les pièces. Et nous avons la chance d'avoir un immense tapis qui provient du palais. Notamment un des très grands tapis du palais.
Et dans votre collection ?
Dans la nef.
Non, c'est un prêt.
Mais vous pouvez peut-être faire mieux, non ?
Bon, on a des cartons de tapis de lui.
Mais
le tapis, en effet, est très, très impressionnant. Et le motif du tapis a servi justement au scénographe de l'exposition pour poser le décor.
Alors on va peut-être écouter quelques instants et on en terminera pas avec lui, mais on va passer à la suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire sur ce Maharaja. Évidemment, écoutons à nouveau Mutesius, ce qu'il dit de l'atmosphère à l'intérieur du palais.
Le but essentiel de la décoration intérieure a été que meubles et murs mettent en valeur les costumes aux vives couleurs des habitants du palais. Dans tout le palais règne l'éclairage indirect et sans ombre. Ici et là, notamment dans la salle de réception, des parcelles de verre ont été incorporées au plafond pour renforcer le rayonnement. Il fallait arriver à créer une impression de fraîcheur. Les nuances claires scintillantes des murs y réussissent. Les rideaux aériens, le cuir lisse des meubles, les tapis aux belles gammes de tons et doux à fouler donnent une ambiance extrêmement vivante qui épouse bien les couleurs intenses des costumes. Il n'y a que quelques tableaux accrochés, mais très choisis, et on les change périodiquement. Un bleu délicat et argenté est la couleur dominante des pièces de réception. Dans le bar et le grand salon, les meubles d'acier contrastent avec les meubles à volume plein des autres pièces. Au centre de la salle de banquet, une grande table lumineuse couverte de verre. Sol et marbre, ocre clair, tenture et mur, jaune clair. Tous ces éléments réunis chantent dans l'éclairage indirect complété par un large emploi du verre. Des bois et des métaux polis ont formé une atmosphère qui, somme toute, a charmé aussi bien les Indiens que les Anglais, les conservateurs que les modernisants.
Vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes toujours en 1935 à peu près en train de bavarder avec le Maharaja d'Indore et de le féliciter pour sa réalisation incroyable en plein cœur de l'Inde d'un monument à la beauté de la création française pour l'essentiel, mais pas seulement. Et il y a un personnage qui va apparaître dans les désirs du Maharaja, et c'est comme cela pour ma part que j'en ai entendu parler la première fois, c'est Brancusi. Olivier Gabet, tout d'un coup, Brancusi apparaît comme le souhait de faire quelque chose d'absolument parfait. De quoi s'agit-il ?
Alors en fait, Brancusi arrive sur la scène, ses apparitions progressives arrivent sur la scène, là encore, cornaqué par Henri-Pierre Rocher. Et Brancusi, à ce moment-là, est quand même dans la recherche encore du mécène qui l'aidera à accomplir... quelque chose de fabuleux qui tient de l'architecture mystique du temple, etc. Et donc le Maharaja visiblement n'est pas totalement insensible à cette problématique qui recoupe quand même des problématiques traditionnelles, culturelles assez fortes. Et ce qui est assez touchant, c'est que même si ce projet restera à l'état de projet et que
on peut dire qu'il a été interrompu ou rendu impossible par la disparition
par la
de la Maharani.
Oui, ouais. Je pense que vraiment là encore, c'est vraiment un moment. C'est ce qui donne encore plus de force, je pense, à cette histoire d'amour, c'est qu'on voit que la mort de la Maharani met quand même un coup d'arrêt à beaucoup beaucoup de choses qui auraient pu, dans l'absolu, tout à fait être perpétué et continué. Et ce qui fait que le Maharaja, même s'il y a ce coup d'arrêt, va quand même manifester un intérêt particulier pour l'œuvre de Brancusi en acquérant auprès de lui deux des oiseaux dans l'espace, l'un noir, l'un blanc, qui sont des pièces assez magnifiques qui ont été vendues avec le palais là encore je crois que c'est même un peu avant la vente de 1980. Alors aujourd'hui ces sculptures fabuleuses sont conservées au musée de Canberra. Alors on a bien essayé de les avoir, mais nos collègues là-bas qui sont des gens que nous aimons beaucoup et qui ont fait beaucoup de projets nous ont...
C'est très difficile à obtenir, ouais,
beaucoup trop difficile, ouais. à faire voyager.
Il y a le roi des rois.
aussi, qui était une pièce en bois,
voilà,
prévue pour être dans
cet
ensemble.
Voilà, absolument. Et qui là aussi sont des pièces aujourd'hui qui voyagent très très difficilement. Alors heureusement, nous avons toujours la générosité du Centre Pompidou, du National d'Art Moderne, qui nous prête le plat original de l'oiseau dans l'espace.
C'est formidable, parce que c'est même pour eux, c'est pas après facile.
Absolument. Et puis on sait ce qu'est l'atelier Brancusi et l'important, le respect justement de ce qu'il représente. Et je tiens vraiment beaucoup à remercier nos collègues, et Bernard Plistel en particulier, d'avoir accepté ce prêt. Parce que là, tout d'un coup, il y a quelque chose de très, très, très fort et très émouvant de réunir comme ça, par touche, même si c'est pas les deux oiseaux dans l'espace qui étaient dans le palais, de réunir par touche tous ces chemins autour du Maharaja.
On va écouter comment était prévu l'espace. Écoutons.
Idée de Son Altesse. Un cours d'eau ou une nappe d'eau au centre, rectangulaire, allongée. D'un côté, l'oiseau noir avec l'oiseau blanc en face de lui. De l'autre côté, l'oiseau de bronze avec en face de lui un petit temple du dieu hindou. L'orientation générale sera choisie pour qu'à une certaine heure du jour, le soleil se trouve derrière le temple hindou et en face de l'oiseau de bronze, qui ainsi reflèterait la lumière sur le dieu hindou. Les oiseaux sont comme des esprits près du temple. L'ensemble du lieu sacré sera entouré d'une haie végétale touffue et élevée, ainsi que d'un mur plus éloigné, s'il en est besoin. Ce sera un lieu de recueillement.
La non-réalisation de ce temple extraordinaire inventé pour Brancusi, qui en avait le désir depuis longtemps par le Maharaja, est vraiment un immense regret qu'on peut avoir. C'était un projet d'une spiritualité, d'une beauté fantastique.
Incroyable. Et puis Mélan aussi, puisqu'il parle bien du temple hindou, montrant bien cette volonté d'intégration. Enfin, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas comme si l'art moderne était posé comme une revendication. C'est vraiment aussi de montrer, et c'est particulièrement frappant dans l'œuvre de Brancusi, qu'il y a quand même quelque chose d'un fil très ténu qu'il faut continuer et qui est très très naturel. C'est vrai que ça nous prive de quelque chose d'assez formidable.
Et les douze oiseaux étant eux très liés à des mythes qu'on peut rapprocher de l'Inde, en tout cas, il s'agit de l'Europe centrale, mais on sait très très près. Et le roi des rois s'étant appelé le Bouddha, c'était un Bouddha auparavant, hein, il me semble. Hein. Et donc on le regrette. Alors, là, on vient de parcourir cette histoire qui, on va pas, c'est pas la peine de s'étendre sur la fin, mais néanmoins, dans l'histoire des très grandes réalisations, on pense évidemment aux Noailles, à Doucet, dont vous avez parlé déjà, etc. Comme vous trouvez que c'est une des belles références dans le monde sur cette période moderne, Raphaël Billet, dites-nous.
Le
palais, est-ce que c'est simplement cette œuvre d'art totale parmi d'autres grandes désirs de totalité comme ça, c'est une réussite.
Oui, parce que effectivement, on sent vraiment que l'attention a été portée à vraiment une unité, une synthèse des arts.
C'est ça.
Qui prend forme.
Qui est l'utopie de cette époque, hein, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Et il a été un des rares à le mettre en œuvre.
Alors, vous pouvez peut-être nous éclairer, parce que les noms magnifiques que vous citiez tout à l'heure et qui sont là, Hélène Gray, Ruhlmann, Manresse, enfin, c'est Brancusi, fantastique. Et puis, il y a tous les absents, parce qu'on pourrait se dire, Rocher, c'est l'ami de Duchamp, c'est l'ami de Picabia, c'est l'ami de beaucoup d'autres. Il n'y a pas non plus Charot, Jean-Michel Franck et quelques autres, Malestévins.
Il y a des bizarreries,
il y a
des morceaux du puzzle qui n'ont jamais été rapportés au puzzle lui-même. Peut-être que Charot et Franck, on peut peut-être le comprendre pour des questions aussi de réalisation de certaines œuvres. Les pièces de Franck étaient par exemple très fragiles et peut-être que c'était pas forcément là encore le climat idéal. Je pense qu'il y a quelque chose qui tient de ça. Ce qui est toujours frappant, c'est qu'on voit bien dans le courrier qui était cité tout à l'heure la fascination du Maharaja pour la collection de Jacques Doucet. Et le fait est que, même si Moutessieux s'explique que les murs sont nus pour mettre en valeur les tenues locales particulièrement chatoyantes, l'explication est peut-être un petit peu rapide, un petit peu sèche. C'est vrai que là, c'était un autre aspect un peu étonnant. Est-ce que ça faisait partie de la deuxième, d'une deuxième phase de ce projet? C'est vrai qu'il n'a pas vraiment acheté le grand Matisse qu'on pouvait attendre, le grand Picasso, le Léger qui serait parfaitement sur les murs, etc.
Le Léger, ça aurait été parfait.
Parfait. C'est vrai que c'est étonnant.
Un Mondrian serait bienvenu.
Un Mondrian était parfait aussi.
Peut-on vivre sans? C'est vraiment quand on est marabout.
Surtout quand on a la possibilité de le faire. C'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant. Et quand on, en effet, on rappelle le rôle de Henri-Pierre Rocher, là, il y a un petit angle mort. Est-ce qu'il n'a pas réussi à aller jusque-là?
Est-ce que c'est Moutessius qui se serait opposé à cela? Ou est-ce que c'était peut-être un projet, mais pour après?
Peut-être.
Parce que c'est une histoire interrompue, néanmoins.
Ouais. C'est peut-être ça, parce que je pense pas qu'il y ait de particulièrement à l'époque de tabou dans le cercle du Maharaja sur des questions de représentation ou de, voilà, quand on voit ce qu'il fait. Enfin, je pense que c'est pas l'art moderne qui est un problème en soi. On aimerait en savoir plus et peut-être se dire en effet que la bonne explication c'est que c'était la deuxième partie du projet et qu'elle n'a pas été réalisée. C'est difficile à savoir parce que c'est vrai que on est frappé quand on regarde les photographies de l'intérieur. Quelque chose d'un peu sec, un peu aride quand même.
Oui, un petit peu. Oui.
Il manque un peu d'une dimension un peu, voilà, en effet picturale. Ou,
ça manque de désordre aussi parfois.
Ça manque un peu de désordre. Alors après, vous avez comme les photographies dans les magazines de décoration. Vous savez que souvent les gens mettent du désordre ou enlèvent du désordre en fonction de la commande photographique. Donc peut-être qu'on a beaucoup bien, on a très très bien rangé ce palais.
J'imagine, cela dit, la réaction des visiteurs de votre musée, il y a quand même une saveur dans ce qui est rassemblé là, qui est absolument incroyable. C'est fou quand c'est à l'intérieur du goût d'un seul personnage et que ce personnage est aussi romanesque au fond que ce prince oriental. C'est magnifique.
C'est assez fabuleux. Il y a des documents très émouvants. Raphaël et Louise ont retrouvé dans les archives Moutessius des films amateurs faits par Eckhart Moutessius. Des choses fabuleuses, avec des scènes de films où il montre aussi, le Maharaja montre les bijoux en les sortant de ses écrins, montre des fêtes traditionnelles, il va pique-niquer, il va à la chasse, il conduit sa jeep, il fume. C'est des choses très 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 émouvantes. Je dois dire que on a montré ces films au fils du Maharaja, Richard Holkar, quand Raphaël et Louise l'ont découvert, et on n'avait pas mesuré l'émotion que représentaient ces images, parce que finalement il n'avait jamais vu son père comme ça. Et c'était très très fort.
Merci infiniment, merci Raphaël Jean. Billet. Merci infiniment, Olivier Gabet, de nous avoir emmené sur ce très, très beau terrain de l'imaginaire que nous a proposé le Maharaja d'Indore.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Raphaël Billet, l'une des commissaires de l'exposition Moderne Maharaja qui vient d'ouvrir donc au Musée des Arts Décoratifs et qui est là jusqu'à quand? Jusqu'en janvier, je crois.
Le 12 janvier.
Et merci Olivier Gabet d'avoir été avec nous et bravo pour cette programmation somptueuse, une fois de plus, je dois dire. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes Lara Brûle, une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin, merci Franck. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de L'Épinay et son émission Le Rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.